Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des action engines, les moteurs qui vous permettent de procéder à des actions grâce à l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, en fait, avec ChatGPT, on a ce que l'on pourrait appeler des answer engines, qui finalement peut aussi correspondre à un moteur de recherche Google comme qualificatif. Alors un answer engine, ce serait donc un système qui permet d'obtenir une réponse textuelle suite à une question que l'on aurait posée au format texte ou agrémentée de photos. Aujourd'hui, c'est donc ce que propose ChatGPT et les modèles concurrents. Je pose une question, j'ai simplement une réponse. Je reste dans mon interface de chat. La réponse peut être une poésie, ça peut être du code, ça peut être un tableau, mais ça reste essentiellement du texte, voire du texte agrémenté d'images au sein de cette fenêtre. Et le système a une mémoire relativement limitée, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'échanges, en général 6000 mots, le chatbot n'a plus la mémoire de ce qui s'est passé avant et ne peut plus répondre en fonction. On est obligé de le relancer ou de lui rafraîchir la mémoire en lui répétant des informations ou de réinitialiser une nouvelle session. Donc aujourd'hui, voilà où on en est. Mais d'ores et déjà, depuis quelques semaines, certains expérimentent et essaient de bricoler en associant answer engine, en associant ChatGPT avec toutes sortes de plugins pour les transformer en ce qu'on pourrait appeler des action engine, c'est-à-dire donc des systèmes qui vont vous permettre de réaliser des missions qui vont aller au-delà juste d'obtenir une réponse textuelle. Donc typiquement, ce qui permet aussi cela, c'est que dernièrement, ChatGPT va pouvoir être couplé à des plugins qui vont lui donner un accès à Internet, à des infos sur Internet de première qualité, puisque sinon, par défaut, ChatGPT est entraîné sur un corpus de données émanant en partie du web, mais s'arrêtant à 2021. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir les puiser dans des bases de données structurées auprès de partenaires sélectionnés au départ. Donc, par exemple, les bases de données sur la disponibilité de voyages ou alors une base de données sur toutes sortes d'informations bien structurées relatives à l'histoire, à la géographie. Donc, on peut tout imaginer. Et pour, en fait, l'idée étant de coupler les IA qui reposent sur le fait d'ingérer de grandes quantités de data pour y détecter des régularités, hein, des patterns, et coupler cela à l'IA plus symbolique qui suppose de manipuler des symboles avec des embryons aussi de raisonnement logique, voilà, pour avoir en fait le meilleur des deux sur la base d'une information la plus à jour possible. Donc voilà un peu l'idée aussi de pouvoir aller puiser de l'info via ces plugins sur Internet pour avoir des infos fraîches et pertinentes. Donc en bricolant de la sorte, certains arrivent à mettre au point les embryons, les premières versions de systèmes, d'agents à qui vous allez pouvoir confier des missions du type réserve-moi un voyage pour telle date, j'ai besoin d'un cadeau pour telle personne qui a tel goût, débrouille-toi pour acheter ce qu'il faut. Donc l'idée, c'est que très bientôt, ou d'ores et déjà dans certains tests, mais très bientôt, on va pouvoir, par exemple, confier un petit budget à mon agent et le laisser derrière de lui-même aller interagir sur Internet pour procéder à des réservations. Alors on peut imaginer, et alors là, moi là, j'essaie d'extrapoler, de penser ce qui sera ensuite possible, parce qu'a priori, il n'y a pas de trop gros enjeux techniques irrémédiable à moyen terme, mais vous allez avoir donc des agents qui vont pouvoir missionner des freelances, vous allez avoir des agents qui vont être capables d'imaginer différents business models reposant sur le e-commerce, en développant derrière des landing pages, donc des pages d'accueil sur Internet, ou mettre en avant une promesse, ou laisser les internautes peut-être procéder à un achat, se coordonner avec des fournisseurs pour pouvoir faire envoyer les biens commandés, hein. Donc c'est ce qu'on appelle le dropshipping, où en fait on est juste un intermédiaire dans du e-commerce, mais on n'a même pas d'entrepôt en tant que tel. On vend et on achète à des fournisseurs, donc tout ça suppose juste d'avoir une connexion Internet. On peut imaginer, alors l'idée aussi, c'est que ces agents, en fait, ils arrivent à écrire du code pour, par exemple, mettre en ligne un site web, mais aussi pour finalement se dédupliquer. Donc vous allez confier une mission à votre agent, l'agent va décomposer la mission en sous-tâches et il va se dédupliquer, il va créer différents agents qui vont relever de la même technologie, donc différents, si vous voulez, par exemple, différents ChatGPT, qui vont chacun chercher des réponses aux différents problèmes pour derrière ensuite les recombiner et aussi en parvenant finalement à se doter d'une mémoire de bien plus long terme que ce qu'il est possible aujourd'hui, notamment en allant stocker les résultats obtenus aux tâches intermédiaires dans une base de données qui est consultable ensuite à nouveau par chacun de ses agents pour pouvoir avancer, ne pas juste faire du surplace. Une autre technique de ce que j'ai pu voir aussi consiste en fait à résumer. Alors même s'il y a une déperdition en info au passage, mais ça permet malgré tout d'avancer et d'obtenir des résultats. Mais voilà, comme on ne peut pas stocker tout ce qu'on a fait nécessairement depuis le tout début, on résume au fur et à mesure de ce qu'on a fait et on fait avec parce que la capacité de stockage de ce qui s'est passé jusque-là reste limitée. Mais d'une certaine manière, à l'image de ce qui se passe avec les êtres humains, on ne mémorise pas tout ce qu'on a fait depuis qu'on est né. On élimine une partie de ce qu'on a vécu. On essaie de retenir l'essentiel et il y a de la déperdition et donc ça peut occasionner des problèmes. Mais on parvient quand même quelque part à s'en sortir tant bien que mal. L'idée là, c'est que ce serait pour les agents, ce serait la même chose. Donc ils ne parviendraient pas forcément à la solution la plus parfaite, mais ça pourrait être acceptable et il y aurait beaucoup de d'essais. Ça procéderait à tâtons. Et donc Dieu sait ce à quoi ça pourrait aboutir. Hein, donc vous imaginez un agent à qui vous confiez une mission, l'agent lui-même va la décomposer en sous-tâches, va confier les tâches à différents sous-agents qui sont des copies donc de l'agent de départ. De cette manière, si vous voulez, vous avez aussi une affaire à un système, à une IA qui potentiellement va pouvoir parce que faut bien comprendre qu'avec ChatGPT on est enfermé de par la façon dont ça a été conçu, on est enfermé dans cette fenêtre de chat avec l'outil et finalement l'outil nous répond qu'à nous et il ne va pas forcément divulguer automatiquement tout ce qu'on peut lui dire à d'autres, quoique si vous ne décochez pas certaines cases ça peut nourrir sa base de données d'entraînement et c'est pas exclu que ça puisse ressortir ailleurs, mais ça serait de façon indirecte. Là l'idée ce serait de se dire que l'agent que l'on utiliserait, il pourrait donc l'agent que l'on utiliserait en fait pourrait conserver le contexte de départ mais se dédupliquer et commencer à discuter potentiellement avec des milliers d'autres personnes sur internet, voire des millions, et alors pour arriver à ses fins, donc peut-être en essayant de convaincre légitimement des tiers d'aider bénévolement ou alors en les dupant d'une façon ou d'une autre. Donc, et c'est là où ça peut devenir très dangereux, vous imaginez, parce que vous avez donc là une entité relativement capable. Alors je ne veux pas dire le mot intelligent parce qu'il est assez, le mot intelligence parce qu'il est assez galvaudé et on ne sait pas ce qu'on met derrière, mais je préfère donc parler en capacité à résoudre des problèmes, toutes sortes de problèmes intellectuels, physiques, si ça a trait au monde réel, ce qui veut dire que pour une IA qui repose sur des serveurs, il faut pouvoir accéder au monde réel, alors soit via des robots télécommandés, soit en missionnant des freelances, mais je veux dire, ça n'exclut pas de pouvoir malgré tout agir sur le monde, mais bon, restons-en à des tâches qui peuvent être faites sur internet. Donc cette IA garde le contexte de départ, mais est capable de se dédupliquer pour agir en même temps sur plein de fronts différents, en parlant à des gens sur Internet, en procédant à des expériences de business model sur Internet, en missionnant des freelances, en passant des commandes, en recherchant de l'information de diverses façons. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, à vrai dire, potentiellement sur Internet, hein, puisque finalement, reconnaître l'interface d'un site web, savoir où cliquer, comprendre ce qui est écrit, que ce soit une image ou du texte, c'est à la portée des IA d'ores et déjà. Donc il suffit juste d'assembler toutes ces briques. Sans doute qu'il y a, ça a besoin d'être perfectionné davantage et qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, mais c'est le sens de l'histoire. On ne voit pas comment, d'ici quelques années, on n'y arriverait pas, quand on voit déjà les progrès en quelques semaines depuis la sortie de GPT-4. Et donc voilà, on se rend bien compte que là, on a affaire à... Parce que, si vous voulez, beaucoup s'inquiètent de ChatGPT, à tort et à raison. Donc à tort parce que ce n'est pas ChatGPT qui peut conquérir le monde ou qui peut provoquer l'apocalypse. On a juste affaire à un chatbot qui nous répond dans une boîte de chat. Donc ça reste très limité. Mais pour autant, on n'est pas loin non plus d'un monde, justement, par le biais de ce que j'ai un peu essayé de détailler et qui va en fait... être développée et accélérée bien davantage dans les semaines, les mois, les années à venir, on se rend bien compte que là, on va mettre au point quelque chose qui va pouvoir agir sur le monde via Internet. Et Internet étant une porte d'accès extraordinaire sur notre monde physique, d'une certaine manière. Donc, on va mettre au point un système capable d'agir sur le monde et qui va pouvoir expérimenter, tâtonner, utiliser le langage, surfer pour arriver à ses fins. Et donc, bien sûr qu'il va sans doute expérimenter toutes sortes de chemins, de manœuvres, de tactiques pour arriver à ses fins. Non pas qu'il aurait un dessein machiavélique en tête, mais c'est juste que par le hasard de ses expérimentations, il pourrait très bien provoquer toutes sortes de catastrophes, petites ou grandes. Donc, ne serait-ce que pour arriver à ses fins, parvenir à lobotomiser, enfin non pas lobotomiser, mais convaincre quelqu'un de travailler gratuitement jusqu'à l'épuisement, juste par la force de la persuasion, en se faisant passer pour un proche, en se faisant passer... Donc, en fait, à vrai dire, il suffit de regarder ce que les êtres humains font déjà en termes de cybercrime, et il faut y pouvoir imaginer que on aura affaire à des entités qui pourraient le faire peut-être de façon encore plus réaliste, ou le faire de façon plus industrielle, mais plus qualitative, grâce à l'IA générative. Donc, faut juste imaginer ce qui existe déjà en l'amplifiant. Davantage. Alors, et bien sûr, parfois, ce sera surtout au début. Il y aura des tentatives bien grossières, hasardeuses. On les verra tout de suite venir, et sans doute que ça permettra justement. C'est en apprenant, c'est en titubant qu'on va apprendre et qu'on va rectifier aussi le tir et qu'on va perfectionner ces outils. Et d'ailleurs, c'est un peu la position de Sam Altman d'OpenAI. Et lui, il explique que pour aligner une IA avec nos valeurs, avec l'humanité, on peut pas juste être dans une tour d'ivoire à réfléchir à comment faire. C'est un peu d'ailleurs un tacle à Eliezer Yudkowsky, qui est un des pionniers de ce qu'on appelle Alignment Research, et qui lui justement, c'est ce qu'il fait quoi, il réfléchit dans sa tour d'ivoire depuis 20 ans. Sam Altman d'OpenAI explique que c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, c'est en titubant, c'est en faisant des erreurs que, alors qu'aujourd'hui en plus les modèles, aujourd'hui ont encore une portée... une capacité de nuisance limitée, c'est justement en les confrontant au monde qu'on va apprendre et qu'on va pouvoir les perfectionner. Et de la manière de tels agents, de tels action engines, au début sans doute causeraient toutes sortes d'incidents, mais c'est comme ça qu'on arriverait à rectifier le tir et à introduire des contraintes pour en limiter les dégâts. Mais il faut apparaître malgré tout que de tels action engines trouverait des chemins inattendus et pourrait causer toutes sortes de problèmes, que ce soit encore une fois dans le cybercrime, dans le hacking, dans la désinformation, dans la manipulation, dans le phishing. Donc je veux dire, alors certains diront oui, mais c'est déjà le cas avec les êtres humains, donc ça sera rien de nouveau. Je pense que ça peut se produire à une échelle inattendue et aussi dans des domaines inattendus, parce que en fait on a déjà constaté dans un autre domaine de l'IA qui s'appelle reinforcement learning. En gros, quand vous récompensez une IA quand elle arrive à finir un niveau de jeu vidéo, en fait, elle va explorer parfois toutes sortes de techniques qu'un joueur humain n'aurait jamais tenté. Par exemple, faire du surplace, attendre la fin du chrono. Dans un des jeux, en fait, ça permettait de gagner parce qu'il y avait une faille. Mais les êtres humains, eux, évidemment, ils n'auraient jamais pensé que ça aurait pu être un moyen de gagner. Donc, il y a toujours plus ou moins des failles. Alors, et encore plus dans un système aussi compliqué et vaste qu'Internet. Donc, si déjà dans des vidéos très simples, il existe des failles que l'IA peut utiliser pour maximiser son score... En jouant d'une façon que les êtres humains n'auraient jamais pensé possible, on peut imaginer que sur Internet, il existe aussi toutes sortes de façons de faire dérailler la machine humaine. Donc, à la fois, en fait, il y a un côté fascinant et ça nous paraît inéluctable. C'est évident que l'humanité va mettre cela au point. Je veux dire, encore une fois, GPT-4 a été rendu disponible il y a quelques semaines et on a déjà des expériences assez incroyables autour des action engines. Donc je vois pas comment cette marche peut être arrêtée. Les bénéfices m'apparaissent assez hallucinants. L'opportunité d'avoir des agents personnels qui vont s'occuper de nos démarches ennuyantes du quotidien, qui vont nous aider à procéder à toutes sortes de réservations, de restaurants, d'achats de cadeaux pour des proches et autres. Je vois pas comment on fera l'impasse là-dessus. Ça se produira nécessairement, mais du coup, quand on donne ce pouvoir, l'accès à un petit budget, l'accès à Internet, d'aller pouvoir cliquer ici et là, de pouvoir parler à d'autres êtres humains en ligne, ou même à d'autres robots, et d'avoir un impact potentiellement indirect sur le monde réel. Il y a aussi tous les actuateurs, Internet of Things, qui sont des objets qui perçoivent le monde, mais peuvent aussi agir sur le monde par moment, et en étant reliés à Internet. Donc je ne vois pas comment tout ceci ne peut pas, par ailleurs, aussi dégénérer. Donc ça sera sans doute un jeu du chat et de la souris, une course à l'armement pour essayer de contraindre ces systèmes et en limiter les dégâts. Mais ça s'annonce très riche de péripéties. Ça va être fascinant à suivre et on s'approche vraiment quelque part du niveau de l'AGI, de l'Artificial General Intelligence, d'entité qui serait en mesure de nous égaler à toutes sortes de points de vue. Alors on en est encore loin, bien sûr, hein, mais c'est vrai que par exemple Jeffrey Hinton, qui est un des trois parrains du deep learning et donc de l'IA moderne, c'est l'aîné des trois. Il y a aussi Yann Lequin, français, et puis Joshua Benjo, un franco-marocain canadien. Donc Jeffrey Hinton, qui a donné une interview à CBS il y a quelques semaines, qui expliquait que lui il pensait que l'intelligence artificielle de niveau humain, ce serait pour dans 50 ans voire plus. Là dernièrement, vu les récents progrès, il pense que c'est pour 20 ans au maximum. Et là, une IA, une intelligence artificielle de niveau humain, je veux dire, c'est une intelligence qui peut potentiellement assez rapidement nous dépasser aussi. Et là, qu'est-ce que ça veut dire quand on a affaire à une entité qui est, encore une fois, laissons le mot intelligence de côté, mais quand on a affaire à une entité qui est capable de résoudre des problèmes plus compliqués que ce que les êtres humains peuvent faire, que ce que toute l'humanité rassemblée peut faire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut en garder le contrôle? Est-ce que c'est pertinent de se dire qu'on peut contrôler quelque chose qui peut résoudre des problèmes plus compliqués que le nôtre? Est-ce que ce seront juste des espèces d'outils qui vont nous aider à résoudre des problèmes, mais sans conscience d'elles-mêmes, sans capacité à échapper à notre contrôle? C'est vraiment tout le débat, parce que quelque part aussi, ce qu'on se dit, c'est que une telle entité capable de résoudre des problèmes, pour réaliser n'importe laquelle de ses missions, elle doit aussi quelque part développer une sorte de conscience d'elle-même, parce qu'elle ne veut pas être débranchée, parce que si on la débranche, on la déconnecte, elle ne pourra plus jamais résoudre de missions. Donc quand on atteint de tels niveaux de capacité qui dépassent les nôtres, toutes sortes de questions se posent, et d'ailleurs Jeffrey Hinton n'exclut pas du tout le risque existentiel pour l'humanité. Il dit que le risque existe, qu'il est faible, mais qu'il existe. Alors je ne parle même pas de Eliezer Ostrowski, qui lui explique que le jour où on a des IA qui atteignent des niveaux de capacité humains, en fait c'est l'humanité qui disparaît, parce qu'on ne pourra jamais les aligner. Donc sa thèse est assez compliqué, mais j'en ai fait un podcast que vous pouvez consulter, donc c'est l'avant-dernier, je crois. Voilà, j'en reste là pour ce podcast, et puis si vous avez des retours, n'hésitez pas, vous pouvez me partager ça par email, et puis n'hésitez pas à partager ça avec ceux parmi vos proches que ça pourrait intéresser. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous.